Alors messieurs, il y a une semaine, c'était le jour de la reprise du Paris Saint-Germain féminin. Les filles d'Olivier Échouafny se sont retrouvées à Bougival sans les mondialistes, évidemment. Olivier Échouafny, le coach du Paris Saint-Germain, est dans l'after avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Olivier.
Alors évidemment, on va essayer de se poser cette question en toile de fond durant tout ce débat et toute cette interview. Le Paris Saint-Germain peut-il à terme dépasser l'Olympique Lyonnais? Mais avant cela, parlez-nous un petit peu de cette reprise. Il y avait la présence de Leonardo lors du premier jour, c'est assez symbolique. Est-ce que vous étiez surpris de sa présence? Est-ce que ça a touché les filles?
J'étais très content. Très très content, mais avant Leonardo, Antero Henrique était aussi passé. Alors bon, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué au bout de la saison dernière, notamment avec les garçons. Mais je trouve que c'était plutôt bien pour l'équipe que Léo puisse passer et puis montrer aussi que la section féminine existe bien au Paris Saint-Germain. Donc c'était bien. Ouais.
Quelle impression vous a fait Leonardo? C'est la première fois que vous le rencontriez. Qu'est-ce qu'il vous a donné et quel message il a fait passer?
Bah écoutez, moi, la dernière fois que je l'avais rencontré, c'était sur le terrain. Donc, ça remonte un petit peu. Mais il a fait passer un message, on va dire, plutôt très, très simple. Déjà, il a félicité les filles pour ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent au Paris Saint-Germain. Et en même temps, on va dire, les mettre en avant et de prendre presque exemple sur ce qu'elles font au quotidien. C'est-à-dire l'institution avant tout, parce que c'est le plus important. Les joueurs passent, les coachs passent, les dirigeants passent, mais l'institution elle reste toujours là. Et à un moment donné, c'est le plus important. Donc ça, c'était un message très très fort. Et les filles étaient quand même très fières que Leonardo puisse parler de cette façon-là.
C'est intéressant de voir Leonardo parler d'ores et déjà d'institution. On sent quand même que c'est le cheval de bataille du nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Au-delà de ça, est-ce que les filles ont été touchées de cette présence de Leonardo? Est-ce que ça les a marquées, motivées? Est-ce qu'elles se sont senties prises en compte, peut-être un peu plus qu'elles ne l'étaient auparavant?
Oui, bien sûr, automatiquement. Puis le jour de la reprise, le premier jour, presque la première minute. C'était, je pense, une belle mise en action pour notre saison aussi, pour la préparation. Elles sont touchées. Hein. Vous savez, on est au Paris Saint-Germain, on est dans un grand club. On aspire à avoir d'importants objectifs. Et il se crée aussi une vraie synergie entre les différentes sections. Que ce soit avec les garçons, bien sûr, mais aussi avec le hand, avec le judo. Donc c'était important aussi le message que pouvait comporter Leonardo.
Olivier Échouafny, vous êtes dans l'after et François Malardo, une question.
Oui, coach, bonsoir.
Bonsoir.
Sortir un petit peu aussi du Paris Saint-Germain, mais aller plus globalement sur l'AD1 féminine. On a eu un événement qui a été une franche réussite sur son organisation en France. Tout le monde le sait, tout le monde en a parlé. C'est la Coupe du Monde féminine. Vous avez été consultant d'ailleurs sur cet événement. Vous avez apprécié comme nous tous. Maintenant, on va revenir à une autre réalité qui est celle justement de l'AD1 féminine. J'avais une première question très concrète. Vous avez bénéficié de quel budget cette année? Est-ce que c'est la même chose que les 7 millions qui étaient alloués par le PSG la saison passée, ou est-ce que c'est un peu plus?
Vous rentrez dans le vif du sujet là.
Bah, c'est bien, non? On a 3 heures, non, hein, on peut faire 3 heures sur la D1 féminine, moi ça me dérange pas.
Non, mais je pense qu'il faut bien séparer un petit peu les deux. La première chose, c'est vrai que l'événement qui s'est passé, cette Coupe du Monde a été assez exceptionnel en termes d'engouement. Vous avez vu comme moi les audiences et les gens qui ont pu suivre le football féminin. Je pense que déjà, c'est une première réussite. La première, c'est que maintenant, on va plus regarder le football féminin de façon différente. Les gens, pour la plupart, ne connaissaient peut-être pas forcément. Et là, ils se sont rendus compte qu'on voyait des matchs de qualité, avec de l'enjeu, avec du suspense, des joueuses qui étaient capables de faire aussi bien que les garçons, si ce n'est mieux même aussi, sur le plan technique. Après, sur le plan physique, il y avait aussi de l'intensité. Donc voilà, tout ça, c'était une très très belle base, et à travers cette Coupe du Monde, on s'est rendu compte que ça mettait tout ça en avant. Bon, maintenant, il y a ce que j'ai envie de dire, il y avait un petit peu toutes ces paillettes Et maintenant, on revient à la réalité du football féminin, de la D1 féminine. Alors, bien sûr, on est en phase de progression. La fédération essaye d'avancer pour pouvoir faire progresser les clubs, les structures des clubs, les centres de formation aussi. Mais on est encore.
Il va y avoir 29 millions, pardon de vous couper, coach. Hein, il va y avoir une enveloppe, mais qui est assez exceptionnelle parce que c'est une enveloppe aussi post-Coupe du Monde. Il va y avoir en gros une enveloppe de 29 millions d'euros qui vont tomber dans l'escarcelle de la D1 féminine cette année. Donc, je pense que c'est... Enfin, dites-moi si je me trompe, mais ça va être essentiellement pour développer la formation.
C'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle.
Bien sûr.
Est-ce que ça... Alors, c'est surtout très, très bien pour toutes ces jeunes filles qui vont venir s'inscrire à la rentrée. Parce qu'il va falloir aussi les accueillir, trouver les structures. Et aujourd'hui, la plupart des sections féminines ont des structures, on va dire, pas dignes pour pouvoir les accueillir. Donc ça, qui est une enveloppe aussi importante, ben ça, les clubs vont en bénéficier. Maintenant, il faut qu'aussi les clubs professionnels, aujourd'hui, fassent
comme
le nécessaire. Ben nous, on va dire qu'on est un petit peu un cas à part, comme aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, puisque on a véritablement un centre de formation depuis maintenant un an avec Bruno Chéroux, avec leur boulot, tous les Sabrina Delano aussi, voilà toutes les personnes qui essaient de structurer bien sûr la formation de la section féminine. Ça n'a pas été tout le temps évident, puisqu'il y a les pôles espoir aussi au niveau de la fédération française.
Il y a 8 pôles espoir, oui, sur le territoire.
Ouais, exactement. Et jusqu'à présent, c'est vrai que la fédération française faisait en sorte d'intégrer ces jeunes filles de qualité dans les pôles espoirs, parce que les centres de formation n'existaient pas. Mais à ce jour, certains clubs de la D1 féminine peuvent recevoir ces jeunes filles et donc faire de la formation. C'est le cas l'Olympique.
Mais alors, je reviendrai presque à ma première question. En gros, donc, l'enveloppe qu'alloue le PSG à sa section féminine, elle est de 7 millions d'euros. Vous avez eu la visite de Leonardo, comme Timothée l'a souligné en introduction. Oui. Est-ce que lui a une prise de conscience aussi, après cet événement en France, qu'il y a quelque chose encore plus à développer au Paris Saint-Germain, ou vous avez pris les devants, est-ce que vous lui avez fait passer aussi un message par rapport à l'événement que vous avez, encore une fois, je le répète, traversé en tant que consultant?
Non, mais je pense que c'était pas du tout le moment. Pour être complètement franc, c'est pas du tout le moment. Après, bien sûr, il y a des priorités, et là, je pense qu'il a bien d'autres priorités. Il sait qu'il peut compter sur la section féminine, sur l'encadrement, sur les dirigeants, notamment Bruno Chéroux, qui est le manager général, pour faire passer les messages. Je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut pas qu'on commence à avoir les dérives dans le football féminin de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être par moment chez les garçons. Donc il faut être très mesuré et faire ce développement, on va dire, par étapes.
Ouais, complètement. Pierre Ducrot en parlait en coulisses, hein. Pierre qui est aussi agent. Les dérives là que vous évoquez, je sais pas si on en a parlé dans les émissions, mais en coulisses, oui. Et effectivement, il y a des dérives qu'il faut tout de suite arrêter et mettre un peu plus de contrôle.
Et puis notamment aujourd'hui, bon, moi je commence un petit peu à m'en rendre compte maintenant, c'est les agents qui arrivent dans le football féminin, les transferts, des agents qui n'ont pas forcément de connaissances et qui trouvent le filon peut-être pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Alors il y en a qui sont très bien, et puis malheureusement il y en a les trois quarts qui sont pas bons.
Ah oui, Olivier Chouafny, ça fait du monde. Pour les Béotiens du foot féminin, est-ce que l'importance du budget est aussi prépondérante dans le foot féminin qu'elle l'est dans le foot masculin, où il y a moins d'écart de niveau pour le moment? Est-ce que une équipe qui a un budget moindre peut encore espérer aller titiller un titre, une coupe?
Oui, bien sûr, même si c'est quand même difficile. Il faut quand même être très réaliste. Aujourd'hui, on est tous en train de combattre derrière l'Olympique Lyonnais, qui vient de remporter son 13e titre, qui est 4e fois champion d'Europe. Ce sont les meilleures joueuses du monde, hein. Il faut être
conscient
de ça.
Mais en gros, coach, vous avez à peu près le même budget avec Lyon. Hein. En revanche, entre le 3e et Paris et Lyon, il y a en gros un décrochage de 4-5 millions d'euros, ce qui est énorme à l'aune du budget dans le foot féminin. Mais vous, avec Lyon, ça se tient, hein?
Oui, ça se tient, mais bon, nous, il faut qu'on loue notre centre d'entraînement, il faut qu'on loue notre lieu pour faire nos matchs officiels, là où l'Olympique Lyonnais a déjà son stade et son centre d'entraînement. Donc, vous savez, d'un point de vue du budget, ça peut faire aussi la différence, quoi, quand vous attirez, essayez d'attirer une joueuse.
Olivier Chouafny, vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans l'After. On revient dans une toute petite seconde pour parler de la saison à venir du Paris Saint-Germain. On reviendra sur ce que disait François à l'instant. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec l'Olympique Lyonnais? C'est tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Demain, vos grandes gueules en direct sur RMC, le fromager Johnny Blanc, le docteur Jérôme Marty, l'enseignante Barbara Lefebvre, et à 11h.
Je crois que personne ne nie aujourd'hui le lien qui existe entre l'immigration et notamment l'immigration clandestine et l'insécurité.
Jordan Bardella du Rassemblement National passe son grand oral. À demain, 9h sur RMC.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Paris Plage, le rendez-vous incontournable de l'été parisien, c'est reparti jusqu'au 1er septembre avec RMC. Au parc Rive de Seine ou au bassin de la Villette, profitez des transats, de la baignade, des activités sportives, nautiques et des jeux pour petits et grands. Programme sur parisplage.fr. Paris Plage, un événement de la ville de Paris avec RMC.
All Inclusive, la comédie qui vous embarque aux Caraïbes avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasco et Thierry Lhermitte.
Je ne veux pas voir un Momo qui s'ennuie. Un Momo qui s'éclate, c'est un Momo qui va bien. Et un Momo qui va bien, c'est un Momo qui revient.
All Inclusive, la nouvelle comédie ensoleillée du réalisateur de Camping, maintenant en DVD et VOD avec RMC.
Tout RMC en podcast sur l'appli RMC.
L'After Foot sur RMC avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
RMC, l'After Foot.
21h15, c'est l'After, c'est jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on va parler de Nicolas Pépé, le phénomène du mercato. Mais on est en direct avec Olivier Chouafny, l'entraîneur du Paris Saint-Germain féminin. Et on était en train de se poser cette question, Olivier. Est-ce que le PSG peut, cette année, ou à moyen terme, concurrencer l'Olympique Lyonnais?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, dans le football, tout est possible. Donc, il faut croire, il faut déjà bien travailler, bien se structurer. Et tout est possible, même si, bon, Lyon, c'est une équipe qui est vraiment arrivée à maturité depuis plusieurs années. Elle rafle tout. Et voilà, ce qu'on connaît bien, elles ont de l'expérience. Et puis, ce sont les meilleures joueuses du monde. Hein. Je pense que cette équipe, si elle avait participé à la Coupe du Monde, elle aurait peut-être remporté la Coupe du Monde.
Un certain nombre justement de vos joueuses internationales sont revenues hier. Quelle sensation vous donne ce groupe en ce début de saison là, dans cette préparation? Vous les sentez concernées, fatiguées peut-être pour certaines?
Non, ça va. Écoutez, celles qui viennent de rentrer, les premières, donc sont celles qui sont fait éliminer, on va dire, lors des premiers tours. Elles ont déjà un petit peu de repos parce que d'une fin de saison, elles ont dû faire une préparation avec leurs équipes nationales. Donc ça n'a pas été quand même évident, mais malgré tout très heureuse d'avoir participé à une aussi belle compétition très bien organisée en France, et puis l'envie de repartir de l'avant, et puis d'aller chercher voilà quelque chose, parce que ce groupe a fait vraiment une belle saison l'année dernière. Il nous a manqué peut-être une étape, ouais, une petite étape, mais je sais que ce groupe est capable de renverser les montagnes.
On le rappelle, vous avez fini à 5 points de l'Olympique Lyonnais. Ça s'est vraiment joué dans le Money Time. C'est maintenant, c'est pendant la période de préparation, justement, que ces points de fin de saison, au moment où les organismes tirent un peu la langue, c'est maintenant que ça se joue?
Non, pas forcément. On va dire que la préparation est importante, bien sûr. Il faut surtout pas la banaliser. Il faut respecter les temps de travail, les temps de repos aussi. Bon, après, on a beaucoup de joueuses internationales, pratiquement une bonne quinzaine, qui partent un peu partout dans le monde entier lors des rassemblements. Donc, le plus dur finalement, c'est de gérer ça quand elles reviennent, parce qu'il y a souvent des décalages horaires.
Olivier Chouafny, entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a deux lectures quand on parle de Money Time. Il y a la fin de la saison et puis il y a aussi la période du marché des transferts. Là aussi, c'est une période importante. Je crois savoir que vous avez officialisé l'arrivée de Xavi Simons, 16 ans seulement, qui vient du Barça. D'ailleurs, en ce moment, vous aimez bien au Paris Saint-Germain, titille un peu le Barça, non?
Oui, écoutez, on aime bien. Après, vous savez, on a essayé surtout de pas trop faire de changements au niveau de notre groupe. L'idée, c'était d'apporter de la qualité, de la jeunesse aussi, avec de forts potentiels. Mais voilà, après, on aura certainement encore l'arrivée d'une ou deux joueuses de qualité pour pouvoir encore renforcer et aller encore plus haut.
Ludovic Obraniak pour Olivier Chouafny.
Salut Olivier. Je voulais savoir ton avis par rapport à François, on parlait de cette fameuse Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi? Je sais que tu as dans ton effectif la meilleure attaquante du championnat. Selon mon avis, elle a énormément manqué à cette équipe de France. Est-ce que c'est ton avis aussi? Et puis moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton avenir professionnel. Tu as commencé chez les garçons, notamment à Amiens et à Sochaux. Tu t'installes et tu as l'air de t'épanouir dans ton nouveau rôle avec les féminines. Est-ce que tu te projettes de revenir dans le football masculin? Est-ce que c'est un tremplin pour toi? Ou au contraire tu imagines à plus long terme avec les féminines?
Il y a beaucoup de questions, Ludo.
tu sais que j'aime bien t'embêter.
Ouais, non, écoute, là, pour répondre un petit peu à tes premières questions, si tu parlais de Marie-Antoinette Katoto, je pense que il est difficilement acceptable de peut-être de ne pas avoir pris Marie-Antoinette parce que j'ai encore du mal aujourd'hui à le comprendre, mais bon, après, ce sont des choix. Mais quand vous avez une buteuse qui est capable de marquer 22 buts dans la saison, voire 50 sur deux saisons, je pense qu'elle aurait été capable d'apporter un vrai plus.
Mais ton rôle d'ancien sélectionneur n'a pas pesé un peu. Enfin, il n'y a pas eu de discussion avec le staff actuel sur éventuellement l'intégration de cette joueuse. Tu as pu avoir un peu de poids dans cette. Est-ce que tu aurais pu faire pencher la balance ou on t'a pas consulté?
Non, après consulter, je trouve ça c'est un grand mot. Après échanger, oui, sur l'état de forme des joueuses, bien sûr que on a fait quand même une saison plutôt très intéressante avec de très bons résultats, des matchs de haut niveau, voilà tout ce que peut-être il fallait pour pouvoir intégrer cette équipe de France. Bon, j'ai eu trois joueuses qui ont participé à cette Coupe du Monde, avec notamment Kadi, Gami, qui a fait quand même une très très belle Coupe du Monde. Après, il aurait pu y en avoir d'autres. Bien sûr, Marie-Antoinette Katoto, Aminata Diallo, Pernambouc Moroni, qui était aussi susceptible de d'intégrer ce groupe. Bon, voilà, moi, quand j'étais sélectionneur aussi, j'ai fait mes propres choix. Après, choix de groupe, choix dans la performance.
Mais a priori, voilà, pardon, coach. C'est quand même plus la performance qui a été remise en question, parce que bon, c'est votre joueuse, hein, vous la défendez, je vous comprends, et s'il faut même elle vous écoute, elle nous écoute, elle a très bon goût si c'est le cas, mais sur sa non-sélection, évidemment beaucoup de gens, dont vous, et c'est normal, vous mettez en avant le fait qu'elle ait fini meilleur buteur du championnat de France de D1, mais encore une fois, cette D1 féminine, elle ne reflète pas la valeur international du football féminin, parce que en sélection elle a été sélectionnée, je crois, à 5 ou 6 reprises. En tout cas, elle a joué 3 matchs, il me semble, dans l'équipe de France sur les derniers mois, avant le début de la préparation. Elle n'a pas été flamboyante, elle a marqué un but, et puis sur le quart de finale contre Chelsea, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais moi je ne l'ai pas trouvée non plus décisive. Elle ne l'a pas été.
Mais des matchs de haut niveau, elle en a fait.
Elle en a fait. Oui, elle en a disputé. C'est votre meilleure attaquante.
Elle en a disputé, notamment en Ligue des Champions. Ce sont des vrais matchs de haut niveau, des vrais matchs qui sont équivalents aux matchs internationaux. Après, il y a peut-être d'autres joueuses qui, dans ce groupe-là, n'avaient pas forcément effectué ces matchs-là aussi. Et je pense que Marie-Antoinette, aujourd'hui, a les capacités, a la qualité pour pouvoir apporter un plus à cette équipe de France. Comme je vous l'ai dit, ce sont des choix. Alors moi, la valeur de ma joueuse, je la connais. Et vous pouvez pas vous imaginer jusqu'où elle va aller.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que son avenir s'inscrit au niveau international, au niveau de l'équipe de France.
On nous a proposé là, sur cette Coupe du Monde, à ce poste-là. Elle aurait pas pu jouer, honnêtement? On n'a pas un vrai déficit
elle
à ce poste-là.
Oui, on a toujours eu un vrai déficit, mais on l'a eu aussi, on l'a vérifié sur cette Coupe du Monde avec Gauvin. Après, sur le choix spécifiquement de Marie-Antoinette Lacoteau, je trouve pas que ce soit le scandale des six premiers mois de l'année 2019 avec ces Bleus.
Alors François, tu parlais à l'instant du quart de finale contre Chelsea, ce quart de finale du Paris Saint-Germain.
Ouais,
Olivier,
ils sont Chouafny, éliminés.
On parle de l'Olympique Lyonnais, on met souvent les deux clubs en comparaison, c'est normal, les budgets sont similaires. L'Olympique Lyonnais est une locomotive dans le football féminin. En Ligue des Champions, on voit que Lyon va loin. Est-ce que ce dont on parle souvent, cette expérience de la Coupe d'Europe au sein d'un club dans son ensemble, masculin, féminin, chez les jeunes de partout. Est-ce que vous ressentez aussi un petit déficit côté Paris Saint-Germain par rapport à cette expérience européenne lyonnaise ?
Oh, certainement. Écoutez, nous, l'année dernière, on a fait le choix, on va dire, de prendre des jeunes joueuses à fort potentiel. Et on s'est séparé pratiquement de six joueuses, de plus de 30 ans. Donc déjà, en termes de groupe, en termes de maturité, on en avait beaucoup moins que les Lyonnaises. Bon, cette année, on a passé un an ensemble. Voilà, les méthodes de travail sont plutôt intégrées. Ça va aller certainement beaucoup plus vite. Mais ce déficit, oui, on l'a eu certainement. Mais il faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, les filles ont déjà fait quand même deux finales de Ligue des Champions par le passé. C'est pas rien. C'est pas rien non plus, il faut quand même y arriver.
Oui, dont une perdue contre l'OL.
Oui, perdue contre l'OL. Première plutôt compliquée, mais la deuxième, ça s'est joué sur le tir au but. Donc, ouais. Et peut-être les Parisiennes auraient peut-être mérité peut-être de remporter la Coupe d'Europe.
Olivier Chouafny, vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain. Jean-Michel Aulas casse régulièrement sa tirelire pour aller chercher des noms. Peut-être l'une des plus ronflantes, Alex Morgan, une des dernières en date. Voilà, il fait ses dépenses, il prend ces risques-là. Ça vous fait rêver en tant qu'entraîneur d'avoir un président qui aille à fond, à 100%, qui prenne des risques financiers sur des joueuses comme ça ?
Vous savez, le président Aulas est un grand passionné de football, soit chez les garçons et aussi surtout chez les filles. Il a énormément contribué à cet essor-là. Alors bien sûr, il va très vite et il va bien plus vite que tout le monde. C'est vrai que par moment, les autres clubs, c'est plutôt difficile à suivre. Alors, vous parliez de budget, bien sûr. Nous, on essaye de s'accrocher, mais bon, derrière, c'est vrai que c'est très très difficile. Et quand on a un certain budget, il est toujours plus facile d'aller chercher les meilleures joueuses. Donc c'est ce qu'il fait à Lyon, avec bien sûr toutes ses qualités qu'on lui connaît. C'est comme ça. Mais nous, on peut batailler bien sûr sur d'autres aspects, sur le collectif, et en créant un vrai collectif, une vraie dynamique, une vraie solidarité. On peut arriver aussi à faire de belles choses. Il faut juste être présente au bon moment. Voilà, c'est surtout ça le plus important.
Coach, pour essayer de tant bien que mal de surfer sur l'engouement de la Coupe du Monde féminine qui a fait de formidables audiences. Alors, on retrouvera pas les mêmes sur la D1 féminine en France, c'est certain, on le sait. Toutefois, ma question, est-ce que vous ne pensez pas que pour améliorer la visibilité, même si le spectacle proposé, et je le dis de manière très claire, ne sera pas celui qu'on a vu pendant la Coupe du Monde féminine, et on n'a pas toujours vu les super matchs non plus pendant cette Coupe du Monde féminine, mais quand même, est-ce que vous ne pensez pas que le foot féminin doit retourner sur une télévision en clair ? Gratuite. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire pour tous ceux qui ont découvert, entre guillemets, le foot féminin pendant la Coupe du Monde chez nous, et toutes les petites filles qui se sont identifiées avec le Sommer, les Henri, les Diani, etc. Ça, toute la bande, il faut payer pour voir le foot féminin en France.
Tu sais combien ça rapporte d'ailleurs, Bein, ce que paye Bein à pour le foot féminin?
C'était en centaines de milliers d'euros.
Ouais, c'est rien du tout.
C'est rien du tout, parce que moi, ouais, je sais combien il a fallu payer au tout début quand c'était France Télévisions, c'était 140 000 euros, donc c'était des clopinettes, mais c'était Noël Le Graët qui avait eu l'idée de proposer
donc
un diffuseur
aux 29 millions. Mais aujourd'hui, ça s'ajoute pas de manière assez conséquente.
Non, évidemment, mais aujourd'hui tu dois payer, c'est-à-dire que t'es abonné à Canal, tu regardes le foot entre guillemets masculin, mais si
Ma fille, moi, me dit, mais c'est génial, c'est fantastique, je veux être licencié, mais je veux les voir aussi jouer, parce que c'est un effet boule de neige. Moi, je suis un papa qui n'aime pas le foot, je suis pas abonné à Bein, je suis pas abonné à Canal. Allez, je suis pas abonné à Canal, puisque c'est Canal, le diffuseur. Je vais payer pour aller m'abonner à Canal pour voir le foot féminin, et là, je vais découvrir quoi. Est-ce que vous croyez pas, je reviens à ma question, qu'il faudrait quand même, pour une meilleure vitrine du foot féminin en France, qu'il retourne sur une chaîne gratuite, une chaîne publique?
C'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Mais qu'est-ce que, oui, c'est mais si vous avez une opinion. Et puis vous avez été sélectionneur de l'équipe de France aussi, Olivier.
Oui, mais vous savez, après, c'est presque au plus offrant, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et le plus offrant va permettre peut-être des retombées économiques intéressantes aussi pour les clubs. Mais déjà, il faut la mettre en valeur, cette D1 féminine. Comment la mettre en valeur? Vous avez un certain nombre de clubs professionnels aujourd'hui qui ont des sections féminines. Il faut pouvoir faire des matchs dans les stades des garçons. Déjà, ça, ce serait un premier pas.
Ouvrir les stades pour les filles.
Elles n'abîment pas le terrain. Elles n'abîmeront jamais. Parce que ça tacle moins, parce que voilà, il y a une spécificité.
Donc vous proposez des levées de rideaux?
Pourquoi pas? Ouais, des levées de rideaux. Ce serait déjà une première chose. Nous, on essaie de mettre en avant, notamment avant les matchs des garçons au parc, utiliser le stade Jean-Bouin. Ça peut-être, pourquoi pas, un jour se réaliser. Après, il y a peut-être des problèmes de sécurité à gérer, etc. Mais ce serait déjà un premier pas. Mais il faut que les clubs de D1 mettent en valeur les sections féminines à travers les structures et les stades. Du coup, quand vous allez avoir des beaux stades, vous allez avoir automatiquement les télés qui vont venir et qui vont vouloir mettre en avant.
C'est une piste.
Olivier Chouafny, entraîneur du Paris Saint-Germain des féminines. Merci beaucoup d'avoir.
Attends, j'avais une dernière chose, parce que vous avez rencontré. Non, mais on va revenir à sa carrière.
Ce temps, non.
Et puis c'est ta première.
Et puis il nous a pas parlé de son avenir. Il a parlé
non,
de
mais coach, vous disiez que la dernière fois que vous aviez croisé Leonardo, c'était sur le terrain.
C'était sur le terrain.
Je crois que je m'en souviens. C'était pas un PSG ou GC Nice au Parc des Princes? 4 buts de locaux.
Je sais plus, j'ai plus ça en mémoire.
Parce qu'il fait qu'une saison, hein, Leonardo, et il y a un 5-0 pour le PSG. Non, mais il veut pas s'en souvenir. C'est des 4 buts de locaux, il veut pas s'en souvenir.
On va regarder ça et on le dira quand vous aurez raccroché.
Non, mais si c'était en 98, c'était au Racing Club de Strasbourg. Donc c'est avec le Racing Club de Strasbourg.
Alors c'est avec Strasbourg.
Merci beaucoup, Olivier Chouette, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente saison.